de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers amis, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. En conférence Notre Océan, l'Indonésie montre son sérieux face à la gestion des déchets plastiques en mer. L'Indonésie est annoncée officiellement comme un pays organisateur de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en 2021. Après la ministre Susi, KKP a continué à se prononcer contre la pêche illégale mondiale. La mise en œuvre de B-Train sera commencée en janvier 2020. L'Indonésie cible la signature des négociations du RCEP en novembre 2020. Voici le bulletin complet. L'Indonésie était présente à la conférence Notre Océan, Our Ocean Conference, OOC, 2019 à Oslo, en Norvège. L'Indonésie a une mission importante. L'un d'entre eux et l'engagement de réduire les déchets plastiques en mer. Ceci est conforme à l'engagement pris par les pays du monde de réduire conjointement les déchets plastiques dans la mer en 2025. Comme l'a déclaré le chef de l'Organisation et des Relations publiques de la Direction générale des transports maritimes, Yann Prastomo Ardi, au forum, a rapporté jeudi par Republika. Il a déclaré que le gouvernement indonésien s'était engagé à réduire de 70% les déchets plastiques dans l'océan d'ici 2025. L'un des efforts consiste à coopérer avec des parties prenantes provenant d'hommes d'affaires, de groupes de la société civile et d'acteurs locaux afin de lutter contre la pollution plastique dans l'océan et le continent qui est la principale source de production de déchets plastiques. La Fédération internationale de football, FIFA, a officiellement choisi l'Indonésie pour être pays hôte de la Coupe du monde pour l'âge 20 ans en 2021 après avoir remporté l'enchère lors de l'annonce qui a eu lieu à Shanghai, en Chine, jeudi 24 octobre. La Fédération indonésienne de football, PSSI, a révélé jeudi la certitude que l'Indonésie avait été choisie pour accueillir la Coupe du monde pour l'âge 20 ans de 2021 sur son compte Twitter officiel. PSSI a déclaré que l'Indonésie avait battu le Pérou, le Brésil et trois pays du Moyen-Orient, co-hôtes le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2021. C'est la première fois que l'Indonésie accueille le tournoi officiel de la FIFA. Auparavant, le plus grand tournoi a été organisé par l'Indonésie était la Coupe d'Asie 2007 avec la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche continue de plaider en faveur de l'éradication de la pêche illégale au niveau mondial après que Susi Pujiastuti n'est plus ministre des Affaires maritimes et de la pêche. Cela a été dit par le directeur général des pêches de capture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Zulfikar Mohtar, dans un communiqué de presse publié jeudi le 24 octobre à Jakarta. Comme Antara l'a apporté, il a également exprimé ce point de vue lors de la conférence du haut niveau sur la sécurité des navires de pêche et la pêche illégale qui s'est tenue récemment à Malaga, en Espagne. Lors de la conférence à haut niveau, a déclaré Zulfikar, l'Indonésie encourage l'éradication de la pêche illicite en améliorant la qualité de la sécurité et de la sécurité des navires de pêche. La conférence vise à encourager la ratification de l'accord de Cape Town 2012, un instrument international relatif à la sécurité des navires de pêche. Selon Zulfikar, devant les représentants de 148 pays présents, l'Indonésie a mis en œuvre des politiques strictes afin d'éradiquer la pêche illégale. Djoko Siswanto, directeur général par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, a déclaré que l'utilisation du B30 sera commencée en janvier 2020. Selon lui, la politique du président Joko Widodo visant à réduire la dépendance à l'égard de l'énergie fossile et des importations de pétrole à travers de l'utilisation d'un mélange de biodiesel avec 30% de biocarburant B30 sera réalisé immédiatement. Joko Siswanto a déclaré à Jakarta que le gouvernement ne prévoyait pas uniquement de mettre en œuvre la norme B30 sur le secteur des transports. Selon lui, l'essai de B30 pour les trains et les navires sera également mis en œuvre. Il a ajouté que la politique de l'utilisation de B30 est déclenchée par la forte importation de carburant diesel. En fait, l'Indonésie est l'un des plus grands producteurs d'huile de palme au monde. Le ministère du Commerce cible que la signature des négociations internationales du Partenariat économique global régional, RCEP, impliquant 16 pays, peut être faite en novembre 2020. Le directeur général des négociations commerciales internationales, PPI, du ministre du Commerce, Iman Pambagio, a expliqué que le processus d'achèvement de cette part de coopération économique, y compris les questions résiduelles jusqu'à la traduction dans les langues nationales de chaque pays, serait effectué au cours du premier trimestre de 2020. Cela a été dit par Iman lors d'une conférence de presse au bureau du ministère du Commerce à Jakarta récemment. Avant d'arriver à l'achèvement des négociations de RCEP, le comité de négociation commerciale CNC soumettra un rapport de situation des négociations aux ministres membres de RCEP au début du mois de novembre. En outre, les ministres soumettront un rapport au chef d'État après la réunion ministérielle RCEP le 4 novembre à Bangkok. Dans le plan de travail pour 2020, chaque pays achèvera un examen de la législation relative au pacte de coopération tel que legal scrubbing, les questions résiduelles et la traduction dans les langues nationales de chaque pays. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Jambi. Le gouvernement de la ville Jambi a organisé le festival Anso Duo pour promouvoir et préserver la chasèche et la culture locale de Jambi. Le festival Anso Duo, qui s'est tenu pendant 3 jours du 24 au 26 octobre, a présenté diverses cultures et traditions du peuple Jambi, ainsi que divers concours liés à la culture de Jambi, notamment un concours de création de batik et un concours de peinture de cerfs volants. Le maire adjoint de Jambi, Maulana, a déclaré jeudi à Jambi qu'il espérait que le festival et le carnaval Anso Duo deviendraient un agenda national. Ainsi, Jambi sera connu et de nombreux touristes nationaux et étrangers viendront. Cela aura donc un impact positif sur le tourisme à Jambi et plus important encore sur l'économie du peuple Jambi. Ensuite, l'info de Kota Waringin S, Kalimantan Central. La tradition culturelle Mandui Safar ou Sebenye Safar se déroule dans la rivière Mentaya Sampit en région Kota Waringin S, Kalimantan Central. La région de Kota Waringin S, Supian Hadi, à Sampit a déclaré mercredi que l'enthousiasme du peuple pour la tradition du Mandui Safar s'était accru d'année en année. Mandui Safar, une tradition de baignade dans la rivière le dernier mercredi du mois Safar, est symbolisée par une tentative de nous débarrasser de choses négatives. Pour animer l'événement, le comité a également organisé diverses compétitions ainsi que des bazars à gâteaux traditionnels et à faire de la bouillie. La dernière, l'info de Mahakam Ulu, Kalimantan Est. Le gouvernement de la région Mahakam Ulu, Kalimantan Est, a organisé le festival Udok Cross Border du 23 au 26 octobre. Outre la danse Udok, pendant 24 heures, il y avait aussi quelque chose de nouveau, à savoir le Udok Nebek. Nebek fait partie de la danse Udok, pratiqué depuis les temps anciens par les ancêtres de sous-tribu Dayak Bahau. Mais à présent, la cérémonie Udok n'a presque jamais présenté Nebek. Cette année, la tradition sera de nouveau présentée. Nebek est une série de danses qui sont généralement exécutées par des danseuses en amenant le dessus du bambou ou les branches ne sont pas coupées, seules les feuilles sont enlevées et accrochées avec des décorations en tissu coloré. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 26 octobre. Le 26 octobre 1979, le président de la Corée Sud, Park Chung-hee, a été tué par le chef de la KCIA, Kim Jae-kyu. Park Chung-hee était un ancien général de l'armée de la République de Corée et le chef de la République de Corée de 1961 à 1979. On lui attribue la modernisation de la Corée Sud grâce à une... industrialisation axée sur les exportations, mais il est également accusé de violation des droits de l'homme au cours de la période supplémentaire de sa présidence. Il a été choisi par les 100 Asiatiques à ce siècle par Time Magazine en 1999. Il avait échappé à plusieurs tentatives d'assassinat jusqu'à son assassinat le 26 octobre 1979 par Kim Jae-kyu, directeur de KCIA et son vieil ami. Le 26 octobre 1994, l'accord de paix israélo-jordanien. Le 26 octobre 1994, deux chefs de gouvernement, le roi Hussein de Jordanie et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, ont signé un accord qu'ils ont appelé la paix et le processus avait commencé depuis la conférence de Madrid en 1991. Cet accord avait été signé dans le processus de paix entre les Arabes et les Israéliens soutenu par les États-Unis. En vertu de l'accord de paix, l'Israël était disposé à se retirer d'une partie de la Jordanie et à annuler son embargo économique sur l'Israël. Avec la signature de l'accord, les États-Unis ont promis de libérer la Jordanie de leurs dettes et fourniraient une assistance financière à la Jordanie. Cependant, la promesse des États-Unis n'a pas du tout été remplie, de sorte que le roi Hussein, qui était depuis longtemps en contact secret avec l'Israël et qui tentait de trouver des avantages économiques par le biais de la paix entre les deux pays, n'a pas pu réaliser ce désir. Le 26 octobre 2010, l'éruption du mont Merapi. Le mont Merapi, situé dans la région spéciale de Yogyakarta, est l'une des montagnes actives en Indonésie. Le 23 octobre 2010, a éclaté et a libéré des nuages chauds. L'éruption du mont Merapi a endommagé plusieurs villages entourages. En outre, en raison de l'éruption du mont Merapi, des dizaines de villageois ont été tués au pied de la montagne. L'un d'entre eux est Mbah Marijan. Il a reçu le prix culturel 2011 du gouvernement provincial de Yogyakarta dans la catégorie conservateur des coutumes et des traditions. La cérémonie de remise des prix a été organisée par le secrétaire provincial de Yogyakarta, Ihsan Nuri, le 29 novembre 2011 à Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki yang selalu gundah menunggu wanita.
Voice of Indonesia toujours avec moi, Tiwi, dans l'émission en français. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Samson, dont le titre est Naluri Lelaki, ou en français, Instinct Masculin. Pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie. Et en titre, le ministre Erick Thohir souhaite que les entreprises d'État pénètrent au niveau mondial. Après avoir été inauguré avec 33 autres ministres, le ministre indonésien des entreprises d'État BUMN du cabinet indonésien Maju, Erick Thohir, a immédiatement reçu le poste de l'ancienne ministre des entreprises d'État Rini Sumarno le mercredi dernier à Jakarta. Après l'événement, Erick Thohir a déclaré aux journalistes qu'il procéderait à une évaluation globale des entreprises d'État dans le cadre de son professionnalisme et créerait un climat sain. Erick Thohir, qui a une expérience dans le monde des affaires, est également prêt à rechercher des éléments positifs qui créent et renforcent les synergies parmi les entreprises d'État. Cependant, l'ancienne ministre des entreprises d'État, Rini Sumarno, a rappelé à Erick de finaliser le programme de formation des sociétés de portefeuille des entreprises d'État. Ce programme fait toujours partie du programme inachevé du président. L'Indonésie compte actuellement 115 entreprises d'État. Le président Joko Widodo a souvent déclaré qu'il y avait trop d'entreprises d'État qu'elles sont inefficaces. Par conséquent, le chef d'État a encouragé les entreprises d'État opérant dans le même domaine à se joindre pour former un holding ou société de portefeuille. Selon Rini Sumarno, les sociétés de portefeuille formeront éventuellement un super holding tel que Temasek à Singapour. En outre, Rini a également demandé au ministre Erick Thohir de continuer à maintenir la cohésion et la synergie entre entreprises d'État afin que celles-ci restent fortes et ne deviennent pas faibles du fait de la concurrence. Ensuite, Rini a également demandé à Erick de poursuivre ses activités conformément au mandat de la loi sur la société d'État visant à encourager une économie populaire affaiblie. Par conséquent, il existe de nombreux programmes des entreprises d'État pour améliorer la capacité des micro, super micro et petites entreprises. Le ministre Erick Thohir a reconnu que la tâche des entreprises d'État est très, très lourde, non seulement en tant que société à but lucratif, mais également en tant que moteur du développement de l'Indonésie. Mais Erick Thohir souhaite également que les entreprises d'État, les entreprises à propriété régionale BUMD et le secteur privé ne sont pas seulement excellents sur le marché intérieur, mais aussi qu'ils puissent pénétrer le niveau mondial. Selon Erick, cela peut être réalisé si toutes les parties, les entreprises d'État, les entreprises à propriété régionale et le secteur privé, ont la même mission: faire progresser l'Indonésie conformément au nom du cabinet indonésien avancé. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voilà la chanson de Ruth Sahanaya, intitulée « Tak Kuduga », qui signifie « Je n'ai pas pensé ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à visiter Lombok Central, en province Nusa Tenggara Ouest, afin de profiter de la beauté de Gili Kedis. Lombok a en effet été très populaire en raison de ses diverses beautés panoramiques, naturelles, fascinantes, telles que les attractions touristiques de Gili Trawangan et Gili Nanggu. Mais cette fois-ci, je vous présenterai l'une des attractions touristiques qui a commencé à se développer, à savoir Gili Kedis, une attraction touristique située à Sekotong Tengah, Lombok Ouest, à Nusa Tenggara Ouest. Gili Kedis a une nature qui n'a pas été touchée par les humains, rendant l'atmosphère encore très belle. Ses eaux claires permettent aux visiteurs de se sentir chez eux longtemps sur Gili Kedis. Différents types de récifs coralliens se développent sainement et deviennent un foyer pour de nombreux poissons. Outre le potentiel touristique, l'accès à Gili Kedis est également assez facile. Pour vous rendre à Gili Kedis, vous pouvez utiliser deux options de route, à savoir le port Tawun, Sekotong, ou le port Lembar, dans la partie occidentale de l'île Lombok. La distance d'environ 40 km prend environ une heure de la ville Mataram. Le port Tawun n'est pas comme un port en général, seulement sous la forme d'une plage. Ici, les visiteurs peuvent louer un petit bateau d'une capacité d'environ 6 personnes au prix de 300 000 à 500 000 rupiah. Ce voyage comprend la visite de Gili Sudak, Gili Tangkong et Gili Nanggu, situés autour de Gili Kedis. La traversée ne prend que 10 à 15 minutes environ, en fonction de l'état de la mer. Gilikidis est en effet une belle petite île. Pour entourer cette belle île inhabitée, cela ne prend que 10 minutes environ. Le sable blanc qui s'étend le long de la côte est très apaisant pour les yeux. Parce qu'il est inhabité, il n'y a aucune installation de soutien, à l'exception de deux gazebos pouvant être utilisés pour le repos. Pour ceux qui veulent passer la nuit sur Gilikidis, peuvent camper ici. L'atmosphère de paix et de calme fait de vous une vacance sur une île privée. Pour des vacances confortables sur Gilikidis, vous devriez venir au port Tawun dans la matinée. Parce qu'il n'y a pas d'électricité ici, n'oubliez pas d'apporter une banque de puissance. Si vous voulez camper ici, préparez bien tout l'équipement et les besoins en camping, tels que suffisamment d'eau, de nourriture et de boissons. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec le sujet plus intéressant. À demain!
Bila harus berakhir segalanya.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Rio Febrian, intitulée « Tiada kata berpisah » ou en français « Pas de séparation ». En plus de la fréquence de 3,3-5 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et ensuite, on va écouter les informations intéressantes de l'Indonésie dans la rubrique de l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur l'application Kesan. À l'heure actuelle, le nombre de santri, soit les élèves des écoles coraniques en Indonésie, atteint 4 millions et leurs besoins en contenu de culte varient également. Pour répondre aux besoins d'applications islamiques pouvant supporter le culte des étudiants dans un même lieu, il y a une application appelée Application Kedaulatan Santri, soit Kesan. Cette application a été publiée en mai 2019 dans un certain nombre d'internats islamiques en Indonésie. Kesan a été téléchargé plus de 25 000 fois. Les utilisateurs de Kesan sont répartis de Sabang à Merauke. De manière unique, Kesan est régulièrement consulté, non seulement pas par les étudiants, mais également par le grand public qui souhaite approfondir ses connaissances sur l'islam. Selon le PDG de Kesan, Hamdan Hamadan, l'application Kesan présente des caractéristiques uniques telles que le livre jaune, une collection de bénédictions, maulids, ratib, bourda, des hadiths quotidiens couramment étudiés par les étudiants. Hamdan a ajouté que l'application Kesan rappelait aussi constamment aux utilisateurs d'exercer des cultes obligatoire et sunnah tels que duha, tahajud, tadarus, lire yasin, prière, etc. Cette application est équipée de l'écriture arabe, orthographe de traduction en indonésien, qui est très facilement comprise par la communauté musulmane. L'application Kesan peut déjà être téléchargée gratuitement sur Google Play, sur Apple Store ou sur le site web de Kesan, www.kesan.org. Puang Kesan, Puang Ide. Après avoir téléchargé cette application, vous aurez le choix de pouvoir choisir en tant qu'enseignant de santri, d'étudiant santri, de la communauté musulmane en général. Ensuite, cette application sera toujours active en donnant des notifications de rappel chaque jour, en commençant par le calendrier des prières obligatoires et de la sunnah, des hadiths quotidiens, et il existe de nombreuses fonctionnalités ou menus qui peuvent aider à rappeler de se renseigner sur l'islam. Toutes les fonctionnalités de l'application Kesan peuvent être partagées avec les médias sociaux ou avec des amis via les contacts WhatsApp. Chers amis, c'est l'Indonésie en couleur.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3,35 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, toujours avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition va vous présenter une chanson intitulée « Bila kau seorang diri » ou en français « Si tu es seul ». C'est une chanson créée par un compositeur indonésien, Rinto Harahap. Et Nur Afni Octavia a popularisé cette chanson à la fin des années 1970. « Bila kau seorang diri » ou en français « Si tu es seul » puis à nouveau chanté par le créateur en genre de croncheon. Les paroles de chanson parlent de quelqu'un qui tente de divertir son amant pour qu'il ne soit pas triste. On divertit son amant en chantant des chansons d'amour ou en racontant des histoires. Chers auditeurs, écoutons la chanson de Rinto Harahap dont le titre est « Bila kau seorang diri » qui signifie « Si tu es seul ».
Aku pun tak bukan saja labu tentang gereja tua, bukannya lagu tentang engkau dan aku.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Je m'appelle Tiwi, je m'en vais.